Vatican II, le Concile en question, avec Monseigneur Marc Hayet.
Comme nous l'avons suggéré dans la dernière catéchèse, on peut se demander du coup qui a été victorieux au Concile. Si on a surmonté toutes ces tensions et ces oppositions, si on a vu aussi que le pape avait fait preuve d'autorité pour régler un différend entre la majorité et la minorité du Concile, qui finalement a été victorieux? Je crois qu'il est très important de précisément de ne pas décerner la victoire à un camp plutôt qu'à un autre. Je pense que chacun a accompli sa tâche. Des textes ont été parfois profondément remaniés, d'autres ont été patiemment amendés, des oppositions franches se sont exprimées, mais on a cherché jusqu'au bout, non pas le compromis, mais l'unanimité. Et ça, c'est très important de le signaler. C'est le mode de fonctionnement spécifique de l'Église. On se rappelle de la description par saint Luc dans les Actes des Apôtres de la première communauté ecclésiale, de l'Église apostolique, où il est dit qu'ils étaient réunis dans la prière d'un seul cœur, d'une seule âme. Corunum et anima una, le mot anima una, l'expression latine anima una, qui a donné le mot unanimité. Comme l'écrivait mon prédécesseur, mon antéprédécesseur, monsieur Vincent, Jean-Paul Vincent, qui était évêque justement au moment de cette session du Concile, le 4 novembre 1964, il écrit dans le bulletin diocésain, qu'on peut retrouver dans nos archives, « Les commissions, avec probité, recueillent toutes les observations pour modifier et parfaire les schémas. De cette longue réflexion menée ensemble est résultée une sorte de mutation. Les pensées se sont ajustées dans un consensus, parfois étonnant, où se manifeste l'œuvre de l'esprit. » Fermé, fin de citation. C'est intéressant, parce qu'on voit bien que ce n'est pas la recherche d'un consensus mou, ni d'un compromis d'ordre psychologique entre des parties qui s'affrontent. Mais on a vraiment une recherche, à travers des discussions, parfois âpres, on a une recherche, non pas d'un compromis, mais de l'unanimité, et il dit bien que c'est manifestement l'œuvre de l'Esprit-Saint, car cette unanimité arrive finalement à un moment assez étonnant. Et en effet, dans le vote final de chacun des documents qui ont été proposés après moult discussions au vote des pairs, rares sont les textes qui aligneront plus d'une centaine de non-placet. Il s'agit de dire placet, donc ça nous plaît. Non-placet, ça ne nous plaît pas, c'est-à-dire que ça ne nous convient pas. Plus d'une centaine, sachant qu'il y avait quasiment 2400 pères qui étaient appelés à voter. C'est dire que les textes, à commencer par les plus importants, ont été approuvés non pas seulement à la majorité, qui d'ailleurs est fixée dans l'Église aux deux tiers des pères, mais à l'unanimité ou à la quasi-unanimité. Ça mérite vraiment d'être signalé. On ne trouve ça dans aucune assemblée parlementaire. On ne trouve ça dans aucun vote, sauf complètement dirigé par un dictateur, comme en Union soviétique autrefois, ou dans certains pays encore aujourd'hui. Pour donner un exemple, le schéma intitulé « Les sources de la révélation » qui a d'abord été présenté au Père et qui a été rejeté au cours de la première session le 20 novembre 1962. A été revu sous le titre « La révélation divine », en latin « Dei Verbum », pour n'être finalement présenté de nouveau à l'examen des pères qu'au cours de la troisième session, le 30 septembre 1964, et ne sera approuvé et promulgué que vers la fin de la quatrième session, le 18 novembre 1965, mais avec 2344 voix contre 6. C'est-à-dire que pour parvenir à une telle unanimité, il y a eu tout un chemin, il y a eu bien des discussions, il y a eu des allers-retours entre la présidence du concile et les pairs, mais finalement on arrive à un document abouti et qui est voté à la quasi-unanimité, 2344 voix contre 6 non-placet. Pour chaque schéma, les oppositions tranchées ont été surmontées. Les textes ont acquis un grand équilibre. Tous les pairs ont signé les textes promulgués. C'est intéressant de noter ici peut-être que aujourd'hui, vous savez bien que nous avons dans l'Église un mouvement qui est sur une pente schismatique, sachant que Mgr Lefebvre, puisqu'il s'agit de son mouvement, a lui-même posé un acte schismatique en ordonnant contre l'accord du pape en 1988 quatre évêques, qui d'ailleurs donc ont été sous le coup d'une peine d'excommunication latae sententiae, même si cette excommunication a été levée par le pape Benoît XVI, qui n'empêchait pas qu'ils sont toujours sous la sanction suspensa divinis, qui veut dire qu'ils ont l'interdiction de célébrer licitement les sacrements en public. Pente schismatique, pas schisme consommé sans doute, d'après ce que nous avait expliqué lui-même le cardinal Ratzinger au cours d'une rencontre à Rome avec les prêtres du diocèse de Toulon, quand j'étais encore dans le diocèse de Toulon, où il avait dit « on ne parlera pas vraiment de schisme, d'acte schismatique et de pente schismatique, mais tant que le dialogue n'est pas interrompu avec le Saint-Siège, on parlera d'un groupe turbulent au sein de l'Église, mais pas à proprement parler de schisme ». Nous sommes dans une situation un peu semblable, sachant que le supergénéral de la fraternité Saint-Pidis, fondé par M. Lefebvre, in illo tempore, a annoncé que le 1er juillet, ils procéderont à des ordinations épiscopales contre l'accord de Rome. Je ne sais pas comment le pape Léon XIV résoudra la question. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que si aujourd'hui ce groupe profondément turbulent au sein de l'Église, renie l'enseignement du Concile et décrète que le Concile n'est pas fidèle à la tradition, qu'il s'établit dans une rupture, ce qui leur permet de se mettre en rupture, de certaine manière, avec l'enseignement conciliaire et donc l'Église qui a évolué depuis le Concile, eh bien, Mgr Lefebvre, qui faisait partie de la minorité du Concile, certes, comme d'autres évêques, a signé par le mot « placet » tous les documents du Concile. C'est important de le souligner, on ne le dit pas assez. Et je me rappelle avoir lu une expression de Mgr Lefebvre le 21 novembre 1964, je n'étais pas capable de lire à ce moment-là cette expression, mais je l'ai lu après dans des archives. Il a écrit un article le 21 novembre 1964 quand le pape Paul VI a déclaré Marie mère de l'Église et il a dit « le pape a sauvé le Concile ».